Voilà. Oui, ça va.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No, no.
Not wounded, sir.
It's
been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filomena.
Et bonjour à toutes et à tous, cinéphiles d'Orient, du Moyen et du Grand, d'Occident, du Petit et du Large, cinéphiles de droite et de gauche. Bienvenue. Vous écoutez Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche, et vous avez bien raison. Et aujourd'hui, on est avec Mathieu. Bonjour Mathieu.
Salut.
Didier.
Bonjour Sophie, bonjour tout le monde.
Olivier.
Bonjour tout le monde.
Alors, Quentin derrière les manettes.
Salut, salut.
Et par téléphone, on est aussi avec Patrick, Patrick Dallet du cinéma Le Vivarais. Bonjour Patrick.
Bonjour. Par contre, je vous entends pas très bien. Ouais. Mais bon, est-ce que vous m'entendez bien, vous?
Ah ben oui, 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 oui.
C'est parfait.
Ouais, d'accord. on va parler aujourd'hui surtout des films Le Consentement, Marilyn et son juge, Le Ciel Rouge, et puis de quelques ressorties. Mais on commence d'abord en musique avec Cinésique, un petit coup de projecteur là samedi avec trois films coup de cœur à voir au Vivarais pour se mettre dans l'ambiance.
Au Grand Bal, depuis 27 ans, on danse pendant 7 jours et 8 nuits. Toute la journée, on apprend des danses dans des ateliers. Et les soirs, c'est les bals. On peut danser jusqu'au petit matin. Et là, on recommence. Et entre-temps, on essaie de voler quelques heures pour dormir. On est plus de 2000 à perdre comme ça ensemble la notion du temps.
Le Grand Bal de Laetitia Carton. Alors ça, c'est vraiment un de vos films coup de cœur, Patrick.
Absolument, j'ai dû le voir trois fois. Là, justement, donc dans le cadre du festival Cinésique, donc on a trois films donc qui sont sur autour du thème de la musique. Donc on ouvre le bal justement le samedi à 15h avec le Grand Bal. Ensuite, on a El Gusto à 18h, à 21h Cold War. Mais Le Grand Bal, c'est vraiment un film qui me touche particulièrement, qui m'émeut, parce que ça fait référence à quelque chose qui est totalement darwinien chez l'individu, c'est-à-dire on se touche de moins en moins, les rapports sont dématérialisés, Le Grand Bal, donc c'est chaque été. Alors je sais pas, le Covid, à mon avis, a dû mettre à mal cette magnifique entreprise, donc il y a plus de 2000 personnes qui viennent de toute l'Europe, donc... Et pendant 7 jours et 7 nuits, donc, ils dansent, voilà. Mmh. Et c'est très beau, et rien que l'affiche, moi, me met les larmes aux yeux, ces deux mains qui se tiennent, et cette valse incessante, ces danses, je trouve ça extrêmement émouvant. Le texte est magnifique, et il y a vraiment quelque chose qui frise la transcendance, sans faire de mauvais jeu de mots, hein. C'est beau, c'est magnifique, et c'est pas du tout hagiographique, c'est-à-dire que il y a aussi, il est aussi question de compétition narcissique, bien évidemment. Il y a ceux qui restent sur les chaises et qui ne trouvent pas de partenaire, et puis les meilleurs d'entre les danseurs qui sont mis sous les projecteurs. Donc tout ça n'est pas du tout mis à l'écart, et c'est très beau. Je trouve que c'est vraiment, c'est un peu toute la condition humaine qui est racontée au travers de simplement ce grand bal. Je trouve que c'est un condensé un peu de l'humanité, de ce qui se fait de mieux dans l'humanité. Hein.
Mmh. Donc ça, c'est à voir. Donc ça commence le Cinésique. Donc c'est à 15h demain. Un film de Laetitia Carton, oui, c'est de 2018. Voilà pourquoi tu disais, Patrick, peut-être que le Covid étant passé par là, ça lui a mis un petit coup dans l'aile. Mais en tout cas, plein d'humanité ici. Est-ce que parmi les cinéphiles autour de la table, y en a-t-il qui l'ont vu?
Oui, moi je l'avais vu à l'époque. Oui, c'est okay. Patrick a raison, c'est un excellent film. C'est même un film rare, je dirais. C'est culotté déjà de partir sur cette idée. Et alors, bon, j'en ai pas un souvenir complètement exact aujourd'hui parce que ça commence à être loin, mais je sais que j'avais énormément apprécié à l'époque. Mmh.
Donc allez-y, chance unique. Demain, le grand bal au Vivarais. Et puis, vous pouvez rester aussi pour El Gusto, le documentaire ouais, musical de l'Irlandais Safinaz Bouzbla. Et Cold War de Pavel Pavlikovski. Ouais, je me suis tentée à 21h.
Je peux rajouter quelque
Bien
chose ?
Bien sûr.
Alors, ce sont trois films excellents, vraiment. Mais donc, le grand bal sera précédé d'une petite introduction musicale donc par les élèves de l'atelier de trad du lycée Vincent d'Indy.
On pourra s'expérimenter, c'est ça.
Et peut-être que nous aurons la joie de voir Laetitia Carton, parce que je suis allé sur son site, et qui est très drôle, qui a l'image de ses films, parce que du coup j'ai regardé un petit peu tous ses films à Laetitia Carton, c'est extrêmement touchant, il y a quelque chose de vraiment réaliste, mais dans sa façon de filmer, d'entrevoir les différents aspects de l'existence, c'est souvent autobiographique, et donc il y a sur son site, elle dit les déclarations, vous pouvez faire une déclaration, me faire une déclaration d'amour directement sur ce site, et ce que j'ai fait d'ailleurs, parce que j'ai envie de dire à cette femme, ce que vous avez fait, c'est magnifique, c'est beau et on vous aime. Voilà.
Et donc, suite à cette déclaration,
et donc du coup, comme j'ai fait une magnifique déclaration d'amour, je suis très modeste, j'espère qu'elle viendra. C'est tout à fait possible parce qu'elle a beaucoup fréquenté l'USAF, entre autres. Elle a présenté beaucoup de ses documentaires et je pense qu'elle n'habite pas loin. Voilà, donc si ma missive, ma lettre n'est pas restée lettre morte, peut-être qu'on aura la joie de voir Laetitia Carton nous rendre visite.
Allons voir la puissance de l'amour, l'impact de l'amour. Donc ce sera demain à 15h au Vivarais à Privas, et puis tout le reste de la soirée pour les autres films de Cinésic. Patrick, eh bien, si tu veux, tu peux rester en ligne. Nous allons continuer pour l'actualité du cinéma. Le film qui fait grand bruit, qui peut-être divise un petit peu, c'est celui-ci. Alors normalement, c'est celui-ci. Ah, alors on peut souder la...
La lecture d'un livre peut changer le cours d'une vie. C'est pour ça qu'il est capital de rencontrer ses maîtres le plus tôt possible, quand l'esprit se forme. Qui as-tu déjà rencontré ou admiré, toi, Vanessa ?
J'étais avec Gabriel, maman. Regarde, il m'a écrit un poème. Même, il me l'écrit.
Il est dans ta classe ?
Le consentement de Vanessa Philo avec Jean-Paul Rouve, que vous aurez probablement reconnu, Kim Higelin, Laetitia Casta. Alors, qui veut commencer ? Vous êtes tous les trois à l'avoir vu.
Didier, vas-y. Oui, pourquoi pas. Donc, on se souvient du choc littéraire il y a quelques années à l'apparition du livre de Vanessa Philo sur le
Vanessa
consentement.
Springora.
Vanessa Philo étant la réalisatrice du film, qui mettait en lumière l'emprise à laquelle elle avait été soumise de la part de l'écrivain Gabriel Matzneff. Moi, j'ai pas lu le livre, mais tout le monde dit qu'effectivement l'adaptation est très fidèle. Olivier, qui a lu le livre, reviendra là-dessus. Alors, bon, disons-le tout de suite, pour moi, c'est pas un grand film de cinéma. Il manque pas mal de choses. Je trouve que on aurait pu l'ancrer un peu plus dans l'époque. Il y a un certain nombre de choses qui auraient peut-être dû être un peu plus mise en avant. Mais par contre, c'est un film incroyablement utile. C'est pas un mauvais film non plus, hein. Ça reste tout à fait honnête. C'est un film difficile à voir parce qu'on s'accroche au fauteuil tellement on a des séquences absolument révoltantes. Moi, ce que j'aurais souhaité, par exemple, c'est qu'on s'intéresse un peu plus au personnage de cet écrivain, qui par ailleurs est un écrivain, enfin était à l'époque un écrivain tout à fait confidentiel, hein. Je crois que ses livres tiraient 800 ou 1000 exemplaires.
Et pas terrible.
Voilà, ce qui est quand même très très peu, mais qui a bénéficié de la complicité, parce que bon, d'accord, on est dans les années 80, MeToo n'est pas passé par là, on est sur d'autres mœurs. Mais quand même, à l'époque, je me souviens très bien qu'on parlait déjà du tourisme sexuel en Asie, etc. etc. Et on a ce personnage, là, écrivain confidentiel, qui écrit des livres sur comment il séduit des gamines de 14-15 ans, avec... des livres extrêmement salaces. Voilà. Comment il va faire du tourisme sexuel en sodomisant des petits garçons, des choses comme ça. Et ce type, non seulement il n'est pas condamnable par la société, mais il bénéficie, je dirais, d'une aura incroyable et de la complicité même du monde artistique et du monde politique. Et là, je crois qu'il y a quelque chose. C'est ça que j'aurais bien aimé qu'on puisse creuser un petit peu. Il y a quelque chose qui est absolument terrifiant et insupportable. Et pour moi, c'est un film terrifiant. Hein, il faut bien le dire. Le personnage, alors interprété par Jean-Paul Rouve, moi, c'est peut-être le dernier acteur que j'aurais choisi comme ça. Et pourtant, c'est incroyable. Absolument. Incroyable de moi, il me faisait penser, alors c'est peut-être une comparaison un peu fallacieuse, il me faisait penser au serpent K dans le livre de la jungle, ouais, quoi, c'est ça, endors-toi, c'est-à-dire c'est vraiment l'image du prédateur et du chasseur, c'est-à-dire il prend le temps. C'est-à-dire, c'est pas un violeur qui va attraper une gamine à un coin de rue. Il va lui écrire des lettres pendant des mois et des mois et des mois jusqu'au moment où il sent sa proie prête et là il va fondre sur elle. C'est absolument révoltant. Et ce que je trouve le peut-être le passage par contre presque le plus intéressant dans le film, c'est au moment où le film verse dans le documentaire avec la séquence de apostrophe, donc dans les années 80, qui était quand même l'émission littéraire phare, Bernard Pivot, un summum. Madzneff est invité, donc il raconte toutes ces turpitudes, toutes ces choses-là, tout le monde applaudit, Pivot lui dit, mais vous êtes un sacré chasseur de minettes ou quelque chose, enfin, c'est complètement incroyable et tout.
Et heureusement, une femme.
Et il y a une femme, Denise Bombardier, donc canadienne. Une écrivaine québécoise, qui sur le plateau, prend le contre-pied de ça. On dit, bah non, vous êtes juste un criminel, vous êtes juste quelqu'un qui, s'il n'était pas un auteur, serait en prison aujourd'hui et tout. Et c'est une séquence incroyablement forte. Et là, on assiste à ça. C'est la séquence initiale. Elle n'est pas remise en scène.
C'est la voix de Jean-Paul Rouve qui est rajoutée dessus.
Oui, c'est la voix de Jean-Paul Rouve qui est rajoutée dessus. Mais alors, on peut le voir sur Internet. Hein. Il y a des milliers de reprises avec la réponse de Madzneff qui est absolument épouvantable. Et ce qu'il faut dire, c'est que Denise Bombardier a payé très très cher cette déclaration. Hein. Elle a été insultée, vandalisée, menacée de mort, menacée de viol. Son bouquin a été remisé. Et d'ailleurs, on peut avoir une pensée pour elle car elle nous a quittés début juillet, là, je crois. Voilà. Donc un film à voir, mais préparons-nous quoi, pour aller le voir.
Est-ce que, pardon, avant de laisser la place à Mathieu et Olivier, est-ce que, je m'interroge depuis que tu parles de ce film, et puis même avant, je n'y suis pas allée, justement, parce que j'avais pas envie d'être prise en otage, et parce que quand on lit le livre, on peut s'échapper de ce livre. Et du coup, la question, c'est, est-ce utile de faire un film et un film de fiction là-dessus ? Parce que tu as dit toi-même, le documentaire, c'était le moment où c'était le plus... Ben voilà, où ça touchait juste. Alors pourquoi faire un film de fiction ?
C'est un peu mon angle, justement.
D'accord, pardon.
Je peux enchaîner, si tu veux.
Je vais juste répondre à ça pour ma part. Moi, je pense qu'un documentaire serait très difficile à faire aujourd'hui. Madzneff n'est plus en France. De toute façon, il ne répondrait pas. Pivot a refusé de répondre à l'époque de la sortie du livre et tout. Donc, il n'y a pas vraiment de témoins où aujourd'hui, par contre, autant Matt Mazeneff était porté au nu à l'époque, autant il a été par les mêmes, hein, souvent voué aux gémonies après la sortie du livre et tout. Donc je pense que la fiction a été un angle assez intéressant. Quand c'est une, et puis ça, peut-être que ça, entre guillemets, dédramatise un petit peu pour le spectateur.
Oui, alors moi je disais c'est mon angle parce que enfin, je m'approprie pas du tout l'angle, c'est pas la question. Mais c'est vrai qu'il y a une émission Un livre, un film donc, qui travaille là-dessus. Et donc il y a au programme aujourd'hui deux adaptations de livres au cinéma, dont Le Consentement. Et effectivement, on a, moi comme je le dis toujours, chaque adaptation est un genre d'adaptation. Donc ici, on est dans un cas d'adaptation dont le mot pourrait être fidélité. C'est-à-dire, on a vraiment un film qui colle au texte, à deux, trois détails près que je ne vais pas dire parce que ça n'a pas d'intérêt et puis ça pourrait peut-être gâcher un peu la lecture ou le visionnement du film. Donc, comme on est dans ce cas d'une adaptation à haute fidélité, je dirais, ça met en évidence, bah évidemment, l'intérêt qu'il peut y avoir à porter à l'écran un livre. Mmh. Et l'intérêt, là, il est évident, c'est-à-dire qu'on passe de la généralité des mots sont fatalement généraux, un écrivain, un romancier, une écolière, une collégienne, etc., etc., ce sont des mots. Mmh. Et là, tout d'un coup, on a Kim Michelin,
il y a une incarnation.
On a Laetitia Casta, on a Jean-Paul Rouve, il vient d'en être question, on a, je ne sais pas si je dévoile, mais Élodie Bouchèze, je ne sais pas comment, bon, qui sont exactement comme tu le dis, des incarnations absolument extraordinaires de ces personnages qui ont existé et qui ne sont plus là. C'est-à-dire que ce qui est assez fabuleux, c'est qu'on a au moins deux personnages réels à l'écran qui sont Bernard Pivot ou Denise Bombardier. Et puis, on a les incarnations par les acteurs que je viens de citer. Et du coup, ça donne effectivement au film une incarnation, une très haute présence, qui fait de ce film un film très utile, comme vient de le dire Didier, à la condition d'être capable de le voir. Parce que pour peu qu'on soit, pour une raison ou pour une autre, proche d'une problématique de ce genre, il y a des images, celles dont parle Didier, qui l'ont fait s'accrocher à son fauteuil, disait-il Didier à l'instant, qui effectivement sont difficilement regardables pour certaines personnes. J'ai déjà rencontré plusieurs cinéphiles, femmes en l'occurrence, qui m'ont dit qu'elles n'iraient pas le voir et je ne les ai pas contredites, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà.
Mathieu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, bien sûr. Bah, je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit sur ce film, de point de vue cinéma, que c'est pas non plus un grand film, mais le sujet est tellement grave. Et en fait, j'ai vu, je peux pas en parler sans parler d'une interview que j'ai vue ce matin de Jean-Paul Rouve, qui parlait de l'incarnation de son rôle. Et il, je sais plus si c'est sur Télérama, bref, il en parlait et il disait que d'habitude, quand il... Bon, je pense que c'est un de ses plus grands rôles de sa vie, j'ai l'impression, à Jean-Paul, voilà. Et du coup, il en parlait comme un rôle qui a été très difficile, et non pas dans le fait d'incarner, en tout cas comme il travaille le personnage d'habitude, que là, ce personnage lui a glissé sur la peau, il s'est senti comme brûlé et non pas incarné. C'est-à-dire qu'il avait ce personnage, malheureusement cette personne qui existe vraiment, le dégoûtait tellement qu'il avait du mal avec ce personnage. Il se rejetait lui-même et ça a été un rôle très difficile pour lui. Il ne faisait qu'effleurer et qu'imiter au lieu de l'incarner. Donc ça a été très frustrant pour lui apparemment. Bon, le résultat, pour moi, je le trouve extraordinaire. Pour parler, je n'ai pas lu le livre, donc je n'ai pas ce recul nécessaire, mais en tout cas, en tant que passionné de cinéma et très curieux, je savais ce que j'allais voir, donc j'y suis allé en préparation. Voilà, j'étais préparé, donc il faut se préparer pour aller voir ce film. Faut pas y aller je suis curieux de exactement, noir, exactement. Ouais. Et quand on voit ce film commence par la voix de Jean-Paul Rouve, donc l'acteur, donc voilà, qui incarne cet écrivain et qui cette voix. On parlait du serpent du livre de la jungle, c'est exactement ça. Cette voix lancinante, presque hypnotisante, cette rhétorique. C'est parce qu'il sait employer les mots, cette manipulation qui commence dès le début, cette confusion. Et donc, le documentaire aurait été très intéressant. En fait, je pense que c'est une histoire tellement incroyable comme disait Didier, ça mérite des approfondissements par moment. Il mérite un documentaire, aussi bien un documentaire de 2 heures qu'un film. Exactement. Et bon, voilà, donc c'est un film que je conseille énormément pour tous les aspects qu'il, qu'il peint, quoi. C'est vraiment incroyable.
Comment ça a pu être possible et comment toute une société a pu rendre ça possible. Donc c'est à voir au navire à Aubenas en ce moment, et à la médiathèque on peut emprunter Le consentement de Vanessa Springora pour se faire une idée éventuellement du livre. Alors il nous reste 10 minutes pour parler de tout le reste, donc on va essayer d'être assez succinct. J'ai pas de bande-annonce, mais on peut parler de Marilyn et son juge de Jean-Pierre Améris, que tu es allé voir Olivier.
J'ai été voir Marilyn et son juge de Jean-Pierre Améris. C'est un avant-goût des rencontres des cinémas d'Europe, puisqu'il sera au programme des cinémas d'Europe. Et c'est Rebelote, un livre, un film. Peut-être que je vais la faire, celle-là. Un livre, un film. Donc, c'est un livre de Muriel Magellan, intitulé « Changer le sens des rivières ». Muriel Magellan, on la connaît comme réalisatrice. Elle a réalisé La Page Blanche avec Sarah Giraudeau, qui était une adaptation d'une BD de Pénélope Bageux et de...
Je ne sais plus.
Voilà. Très belle adaptation avec Sarah Giraudeau, d'une BD très, très sympa. Donc là, on a une adaptation avec Louane et puis
Michel Blanc.
Bon, c'est un film qui, encore une fois, ne va certainement pas rester de manière impérissable dans les mémoires, mais qui se voit parce que Michel Blanc joue très bien, Louane est convaincante, Belmondo aussi. Et puis, à voir et à lire pour au moins une chose qui est que, enfin c'est une question, mais là il y a une réponse, pouvons-nous ou non changer le sens des rivières ? C'est-à-dire, pouvons-nous changer des déterminations sociales qui paraissent aussi sévères et aussi lourdes que les lois de la nature, quelque part ? Muriel Magellan semble répondre « Oui, on peut mettre un coup d'arrêt aux déterminations sociales qui nous engluent, qui nous font nous dire « J'ai pas de chance, j'ai vraiment, c'est la disgrâce, etc. » Non. Et on peut arrêter le truc, se retourner et faire autrement. Et de ce point de vue-là, c'est un film qui fait du bien. Voilà.
D'accord. Merci Olivier. Alors Patrick, je ne sais pas si tu es toujours en ligne. Tu peux intervenir. Hein. C'est vrai que j'ai pas donné la parole parce qu'on est un petit peu court en niveau temps. Mais n'hésite pas si jamais tu veux dire un mot, soit du consentement, soit de ce film Marilyn et son juge, qui est notamment à l'affiche à Privas, mais aussi au Navire ou à Ruons. Je ne sais pas. S'il est encore là ou peut-être pas. En tout cas, merci d'avoir été là. Donc, Marilyn et son juge, un mot sur un très beau film dont on a peu parlé, et trop peu parlé à ton avis.
Trop peu parlé, oui, parce que c'est un film vraiment très réussi et très intéressant. C'est Le Ciel Rouge, d'un film allemand de Christian Petzold, donc un réalisateur qui s'intéresse beaucoup à l'histoire de son pays, et particulièrement à la RDA. On peut se souvenir de Contrôle
allemand.
D'identité, de Barbara. Voilà, que c'était d'excellents films. Là, on est aujourd'hui sur le bord de la mer Baltique. C'est l'été, donc la mer d'un côté, la forêt de l'autre. Et la forêt menaçante, puisque au loin, les incendies font rage. De temps en temps, on a des pluies de cendres, des choses comme ça. Et près de la plage, on a une maison de vacances avec 4 personnages dedans. Donc Léon et David qui sont amis, qui viennent ensemble, qui devaient se retrouver tous les deux dans cette maison. Et puis en fait, il y a d'autres personnes. Léon, c'est un jeune romancier qui est dans les affres de la création parce qu'il est en train d'écrire son deuxième livre et il ne sait plus du tout où il est. Et il devient vraiment pénible pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'on a tous connu des gens comme ça. « Non, je ne vais pas me baigner. Oh, c'est pas bon ce qu'on mange, etc. etc. » son ami David, qui lui est photographe et qui est en train de chercher l'idée, voilà, et qui est pratiquement son antithèse, et puis deux autres personnages qui normalement n'auraient pas dû être là, une jeune fille qui vend des glaces, mais qui en fait s'avérera être quelqu'un de complètement différent de ce qu'on pourrait penser au prime abord, et le maître nageur de la plage, voilà. Donc on a au début une sorte de marivaudage comme ça, un peu romérien, alors sur fond quand même d'incendie, ouais. Pas très loin, des choses comme ça. Et puis au fur et à mesure que le film avance, on va vers d'autres interrogations. Par exemple, qu'est-ce que la création ? Est-ce qu'on peut définir les gens au premier regard, ou voilà, comment on connaît véritablement quelqu'un? D'autant plus qu'il y a une séquence très très belle, enfin très très belle, très très forte, où on a un cinquième personnage qui arrive, c'est Helmut, qui est l'éditeur de Léon, et qui vient lui dire en gros que son livre, c'est vraiment lamentable ce qu'il a fait, quoi. Et tout ça va virer quelque part au psychodrame, avant un dénouement que bien entendu je ne vous dévoilerai pas, mais qui est vraiment très très beau, presque nostalgique. Alors que deviennent ces incendies? Ça, il faut aller voir le film pour le savoir. Donc le titre du film, Le Ciel Rouge. Et alors il y a quelque chose, moi, que j'aime beaucoup, c'est une petite anecdote que je vais raconter. Quand Léon et David sont sur le chemin pour arriver dans cette maison de vacances, ils sont dans une Mercedes. Et la voiture tombe en panne. Je crois que c'est la première fois que dans un film allemand, une Mercedes tombe en panne. Et je pense que c'est pas du tout pas par hasard. Non, c'est-à-dire que vraiment, ça va avec les incendies et le reste, le monde s'écroule, quoi. Et il y a vraiment quelque chose.
Et les Mercedes tombent en panne. Voilà. Merci. Donc c'est à voir. Alors c'est à Rosières. Si vous voulez aller le voir, il y a plusieurs séances là cette semaine. Le Ciel Rouge de Christian Petzold. On va doucement terminer avec quelques reprises. On a commencé, on va terminer en musique sur les notes de Miles Davis pour parler donc de quelques ressorties ou de nouvelles projections de certains chefs-d'œuvre. Je mentionne Séduite et Abandonnée. Donc là, on a quelques minutes. Bon, ce qu'on entend d'abord, c'est évidemment Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle, qui sera ce soir au Teil à 20h. Si quelqu'un n'a jamais vu Ascenseur pour l'échafaud, qu'est-ce que vous lui dites pour
d'aller le voir?
D'aller absolument le voir. C'est un polar mythique, noir et blanc. La musique de Miles Davis qu'on vient d'entendre, Jeanne Moreau, Maurice René, une intrigue absolument incroyable pour un film policier. Et pour ceux qui s'intéressent à la musique, Miles Davis, oui. Mais pas que, puisque dans l'orchestre, on a René Outreguer, on a Pierre Michelot et Kenny Clarke, quand même. Donc pour les gens qui sont un peu jazzy, ouais, ça va leur parler. Et juste petite anecdote, l'assistant réalisateur, c'est Alain Cavalier.
Ah,
d'accord.
À voir donc ce film de 1958, je crois.
Oui, 57 ou 58, je sais plus.
De Louis Malle. Donc.
Et un pro de Miles Davis, oui. Collé au film tel quel. Hein.
C'est ça.
Ouais. Attention, hein. Vous avez une chance de le voir sur grand écran avec son Dolby Stereo et Miles dans vos oreilles. C'est ce soir au Teil à 20h. Autre film, il y a donc Séduite et Abandonnée, film de Pietro Germi.
Oui, donc que je conseille, mais je ne l'ai pas vu ce film. Donc, voilà,
1964, si Patrick avait été là, puisque c'est à Priva. Et puis Ninotchka. Alors, juste un mot, oui. Olivier, Lubitsch. Ninotchka, ressorti de Lubitsch de 1940.
J'avais dit sur mail à tous les participants de Cinémascope, les chroniqueurs vaillants et les chroniqueuses vaillantes, que c'est mon plus vieux souvenir de Ciné-Club. Et que j'avais trouvé ce film à la fois éblouissant, son esthétique, éblouissant d'esthétique, et léger dans l'interprétation, une forme d'ironie et de sourire tout à fait particulier. Et ce film, j'en ai un souvenir physique, mais je l'ai vu à télé, dans le fauteuil de chez mes parents, quoi. Mais c'est gravé avec ces deux tonalités d'éblouissement et de plaisir joyeux.
Ninotchka de Ernst Lubitsch avec Greta Garbo. Et ce sera en Ciné-Club, justement. Tu parlais de Ciné-Club. Merci les Ciné-Clubs. Le Ciné-Club de Barjac, ce sera mardi 19 à 20h30. On termine encore, parce que notre Ciné-Club à nous...
Tu pourrais faire une annonce rapide ?
Ouais, notre Ciné-Club géant à nous, international et mobile, c'est la Maison de l'Image qui nous régale avec sa tournée. Ce soir, bon, je sais que tu n'aimes pas ce film, Tony en famille à Tueil à 20h30. Mais surtout, dimanche, le cercle littéraire de Guernsey de Mike Newell qui reprend le bouquin Adaptation littéraire. Absolument. Des Éplucheurs de patates.
On a fait un livre, un film avec Cathy là-dessus.
là-dessus.
Voilà, donc ça, c'est dimanche, vraiment à ne pas manquer, à 16h30, Mike Newell. Et puis aussi, je le précise, mardi 17, il y a à nouveau Les Filles d'Olpha. Si vous ne l'avez pas vu, c'est à Tueil. Vraiment, allez le voir. Un film... je vous le conseille.
C'est atypique,
ouais. Ouais, complètement atypique. Donc deux choses vraiment, dimanche Le Cercle littéraire de Guernsey à 16h30 à Tueil, et mardi Les Filles d'Olpha, ce sera en soirée à 17h. Et juste le dernier mot, c'est pour toi.
Non, mais normalement la semaine prochaine je passe au navire pour présenter sur une séance du consentement pour présenter le bouquin, le film. Et ensuite, retrouver les spectateurs dans le hall pour partager des livres qui ont été adaptés au cinéma. Voilà.
Super, un livre, un film au cinéma, en direct, au navire. Merci beaucoup tous les trois d'avoir été là. Merci à Patrick, qui peut-être n'est plus là, d'avoir été là par téléphone. Merci Quentin d'avoir réalisé cette émission. On se retrouve pour un prochain Cinémascope vendredi prochain. Et sinon, bah, y a plein de programmes qui vous régalent toute la journée pour, sur les ondes de Fréquence 7. À bientôt.
Alors maintenant on met la caméra au milieu. Voilà. Alors la caméra passe.
What is this kind of crazy?